Voilà, ce matin, nous continuons notre étude de 1 Timothée, et nous abordons maintenant 1 Timothée chapitre 5, les versets 1 et 2, et j'ai intitulé mon message ce matin « Confronter le péché dans l'Église ». Et j'aimerais lire ces deux versets, 1 Timothée 5, 1 et 2. Paul écrit à Timothée, qui est à Éphèse, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père ». Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Vous devez avouer que ce sont des versets quand même intéressants, ces deux petits versets de 1 Timothée 5. Alors, permettez-moi d'essayer de comprendre comment situer ces versets dans un contexte beaucoup plus large. Reculons au début de la Genèse, à la création de l'homme, vous allez comprendre. Vous rappelez que lorsque l'homme a été créé, très vite, il s'est rebellé contre Dieu et a décidé de vivre sa propre voie. Dans Genèse 6 et le verset 5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Donc, la terre très vite s'est remplie de violence. Et la réaction de Dieu à la rébellion de l'homme fut rapide et je dirais même draconienne. Dieu, vous vous rappelez, a simplement décidé qu'il allait détruire tous les hommes par le biais d'un déluge à une échelle mondiale. Dans le chapitre 8, 17, Et moi, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Donc Dieu décide de détruire la terre et les hommes. Dieu n'épargna que 8 personnes, Noé et sa famille, qui était en fait un immense acte de grâce de sa part, car Dieu va quelque part donner à l'humanité une seconde chance. Alors le monde se repeuple, mais la nature de l'homme et le problème du mal dans son cœur demeurent. Il reste intact. Alors la question se pose, comment Dieu va-t-il permettre à l'homme inique ou imbibé de mal de vivre sur terre sans s'auto-détruire? Eh bien, la réponse est celle-ci. Dieu va créer et donner à l'homme des garde-fous. C'est le but des lois, c'est le but des institutions qui sont là pour gérer l'homme inique. Il fallait que les hommes aient des limites bien définies pour qu'ils puissent vivre en harmonie les uns avec les autres. Même si cette harmonie, il faut l'avouer, est imparfaite. Pourquoi ? Parce que l'homme est pécheur. Donc, ça limite le dégât, mais ce n'est pas une réponse totale du dégât. Car le vrai problème de l'homme, c'est son cœur, nous dit Matthieu 15. Mais Dieu donne aux hommes des institutions pour gouverner l'homme, afin que l'homme puisse s'auto-gouverner de manière plus ou moins droite et plus ou moins juste, malgré son péché. Alors ces institutions, même si elles sont imparfaites, ont deux buts. Premièrement, de récompenser l'homme lorsqu'il agit bien, et de punir l'homme lorsqu'il agit mal. C'est ce qu'on appelle la justice. Alors ici, on ne parle pas du tout du salut des hommes, ça n'a rien à voir avec le salut, c'est simplement comment les hommes peuvent-ils vivre sur la terre sans s'auto-détruire. Et donc ce sont ces institutions humaines créées pour gérer les hommes, pour lui permettre de vivre ensemble, qu'ils croient ou qu'ils croient pas, ça n'a rien à voir. Et donc cette justice est composée de deux choses, la récompense pour le bien et la punition pour le mal. Alors, la Bible décrit plusieurs sphères dans lesquelles la justice doit être émise, et surtout vis-à-vis des punitions. Par exemple, nous savons que parfois, lorsque l'homme fait le mal, Dieu punit directement. Par exemple, le déluge est un excellent exemple. L'homme pêche, Dieu décide d'envoyer un déluge, et les hommes meurent. Autre petit exemple très intéressant dans l'Ancien Testament, dans Nombre 21, et le verset 5, Il est dit, verset 4, à la fin du verset 4, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Donc, le peuple, les enfants d'Israël qui sont dans le désert, sont mécontents, ils se plaignent. Et ils disent, pourquoi l'avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alors de nouveau, c'est une histoire incroyable, mais là, Dieu agit de manière seule et il punit le peuple. Nous voyons ce même principe même dans le Nouveau Testament. C'est dans le contexte de l'Église, mais il est dit que ceux qui prennent, et là on vient de prendre la Sainte Cène, mais ceux qui prennent la Sainte Cène de manière indigne, en Corinthiens 11, il est dit pour cela qu'il y a parmi beaucoup vous d'infirmes, de malades, et un grand nombre sont morts. Donc Dieu peut carrément infliger quelqu'un d'une maladie, ou carrément le tuer, s'il voulait le faire, s'il agit de manière indigne. Donc premièrement, Dieu peut agir lui-même de manière directe. Mais il y a d'autres institutions où la justice doit être émise dans le monde. Par exemple, l'État. L'État. Dieu veut qu'il y ait des États et que ces États aient un pouvoir de justice. Par exemple, dans Genèse 9 et le verset 5, « Sachez-le aussi que je demanderai le sang de vos âmes, je le demanderai à tout animal, je demanderai l'âme à l'homme, de l'homme à l'homme et l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Ici, dans Genèse 9, il donne le droit à la peine capitale à l'homme pour arrêter le mal dans certains cas extrêmes. Nous avons le même principe dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 13, où l'État doit agir. Verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. » Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dieu a donné à l'État le devoir de punir le mal afin de permettre aux hommes de vivre en paix. C'est le but. Donc on est pro-police, c'est même pro-armée, si cela donne l'ordre. Il y a une autre institution où Dieu de nouveau donne un droit de justice, c'est au niveau de la famille. La Bible est claire, les enfants doivent obéir aux parents. D'accord ? On vient de faire un cours sur le sujet, donc ceux qui ont pris le cours, vous êtes au courant de ces principes. Mais que se passe-t-il si les enfants désobéissent ? Eh bien, la Bible est très claire. Proverbe 13, 24, par exemple, « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Aux parents de corriger leurs enfants. Chapitre 15, verset 5, « L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » Chapitre 19, le verset 18 encore, « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » C'est intéressant, n'est-ce pas, comme verset. Bref, de nouveau, au niveau de la famille, il y a une justice. Les parents sont appelés à corriger, voire punir leurs enfants s'ils n'obéissent pas. Eh bien, ceci peut paraître surprenant pour certains, mais Dieu a donné cette même autorité à l'Église pour punir ceux qui choisissent de vivre en désobéissance ouverte à Dieu. Il y a aussi une justice, est-ce que je peux utiliser ce terme, ecclésiastique, une justice dans l'Église, cette troisième institution que Dieu a donnée, d'accord ? L'État, la famille et l'Église. Et voilà le but de notre texte ce matin. Là, on touche sur le sujet de la justice dans l'Église. L'Église est appelée à réprimander, à punir ceux qui décident de vivre un mode de vie qui va à l'encontre de ce que Dieu prescrit. Alors avant de regarder nos textes, juste quelques versets, je ne vais pas beaucoup les commenter, juste faire un survol de certains de ces versets qui nous parlent de cette justice à l'intérieur de l'Église. Par exemple, Galates 6, 1. « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc si, dans le contexte de l'Église, quelqu'un pêche, quelqu'un faute, eh bien, à quelqu'un d'autre dans l'Église d'aller reprendre ce frère. Matthieu 7, un texte qui est assez connu. Peut-être on le voit assez différemment que de son sens réel. Dans Matthieu 7, 3. Pourquoi, Jésus dit, vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans la tienne? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors ce verset n'est pas en train de dire que si j'ai moi un problème, je ne dois pas aller voir mon frère. Il me dit, si j'ai un problème, je dois enlever le problème de ma vie et aller voir mon frère pour le réprimander. Voyez-vous, le travail ici, c'est l'ordre ici, c'est d'aller réprimander son frère une fois qu'on a réglé le problème dans nos propres vies. Donc, de nouveau, l'appel à réprimander celui qui a besoin d'être réprimandé. Dans Luc 17 et le verset 3, « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. » Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. De nouveau, si ton frère a péché, va et reprends-le. Encore Matthieu 18, un texte très connu à ce sujet, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Et là, dans le pire des cas, et ça c'est vraiment dans le pire des cas, si un frère ou une sœur dans l'Église refuse de se repentir et choisit de vivre un style de vie qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut de lui, eh bien, dans Matthieu 18, on doit le considérer un païen, un publicain. On considère cette personne, mais tu veux vivre comme un non-chrétien, alors je te considère un non-chrétien. Et dans 1 Corinthiens 5, on est carrément appelé à expulser cette église, cette personne de l'Église. Il dit, vous êtes enflé d'orgueil, 1 Corinthiens 5, 2. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction par rapport à ce pécheur, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc, je dirais des prescriptions draconiennes. Et on voit que parfois Dieu lui-même directement est draconien, parfois l'État doit être draconien, parfois au niveau de la famille il faut être draconien, et parfois au niveau de l'Église il faut aussi être draconien. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi ces lois ? Pourquoi pourquoi de telles punitions ? Eh bien écoutez, si l'État ne punit pas les malfaiteurs, cela va mener à quoi ? À l'anarchie. Si les parents ne punissent pas leurs enfants, cela mènera à quoi dans la famille ? L'anarchie. Eh bien, si l'Église ne punit pas ceux qui se rebellent contre Dieu, cela deviendra très vite quoi ? L'anarchie dans l'Église. Et 1 Corinthiens 5, 6 nous dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Donc il dit, si on n'est pas radical avec le péché dans l'Église, eh bien, tôt ou tard, cela va contaminer toute l'Église. Donc il y a parfois un temps où il faut être net et clair sur ce sujet. Alors ça, c'était l'intro, d'accord ? C'est un peu long. Allons à 1 Timothée 5. Mais je crois que ça vous explique et ça vous est, oui, on comprend mieux maintenant pourquoi de tels versets figurent ici. D'accord ? Alors nous sommes dans 1 Timothée. Paul, qui a fondé l'église à Éphèse, n'y est plus. Il a donc envoyé ce jeune pasteur Timothée à être pasteur de cette église. Et il dit au chapitre 3, verset 15, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et donc jusqu'à là, jusqu'au chapitre 4, il a parlé de généralité, de sujets généraux dans l'Église. Maintenant, au chapitre 5 et 6, il devient très pratique et se concentre sur les membres individuels qui composaient l'Église. Et bien sûr, en soulevant les problèmes ou les choses qu'il va soulever, implique qu'il y avait dans l'Église ces sujets qu'il fallait aborder. Donc, des problèmes actuels ou des problèmes potentiels que Timothée devait savoir comment gérer. Et alors nous allons voir les personnes qui ont besoin de réprimander, plus tard les veuves, ensuite les anciens qui ont besoin d'être disciplinés, les maîtres et comment ils géraient leurs esclaves, et toute une section dans le chapitre 6 sur les gens riches dans l'Église. Comment manager ou comment gérer les richesses vis-à-vis des gens riches. Donc ce sont des sujets très très intéressants que nous allons voir dans les semaines et les mois à venir. Aujourd'hui, il y a 4 types de personnes qui sont ici soulevées. 4 types de personnes qu'il faut parfois confronter dans l'Église. On va relire les versets 1 et 2. « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Nous allons voir ces 4 types de personnes. Premièrement, les vieillards, comment les confronter. Deuxièmement, les jeunes gens. Troisièmement, les femmes âgées, et quatrièmement, les jeunes femmes. D'accord ? Donc, je pense que vous allez retenir assez facilement le découpage du texte ce matin. Alors, premièrement, les vieillards. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Alors, c'est très important, surtout dans le contexte. Contexte, c'est tout. Regardez, chapitre 4, verset 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Nous avons une situation intéressante dans cette église. Il y avait un jeune pasteur, Timothée, qui était appelé dans l'Église à gérer ou à aider, ou pour, ici à confronter des personnes âgées. Mais surtout des personnes âgées qui avaient un problème d'attitude vis-à-vis de Timothée. Il méprisait sa jeunesse. Alors je peux parler d'expérience ici. Car dans mes années de ministère, j'ai été parfois dans des situations où moi-même, en tant que jeune pasteur, je savais que j'étais méprisé par des personnes âgées dans l'Église. Et c'est pas facile, en tant que jeune pasteur, ou pasteur tout simplement, de mener une Église lorsqu'on est sans cesse critiqué pour une chose ou une autre par certaines personnes âgées qui ne vous respectent pas. C'est pas facile. Alors comment un jeune pasteur comme Timothée, qui lui était bibliquement qualifié, mis là en place en tant que pasteur par l'apôtre Paul lui-même, mais sachant qu'il était méprisé pour sa jeunesse, comment allait-il faire pour mener l'Église, surtout face à ces personnes qui le méprisaient? Eh bien, la réponse est claire, même si elle est surprenante. Il faut réprimander ces personnes, dit-il, mais pas n'importe comment. Il y a une manière, une approche, un doigté. Il dit « ne réprimande pas rudement ». Et le mot est intéressant. Le mot pour réprimander ici, c'est le mot qui littéralement veut dire « donner des coups ». Alors, littéralement, on dirait « ne va pas donner des coups aux personnes âgées qui ont besoin d'être réprimandées ». Alors, je ne pense pas que ça va se faire, mais c'est une image très forte. Il décrit un reproche, une dénonciation, une réprimande très forte et dans le contexte trop fort. Il dit « ne réprimande pas rudement, ne réprimande pas de telle manière que ça donne l'impression que tu donnes des coups à la personne. Il ne faut pas que la réprimande soit disproportionnée à la faute commise. » Ceci explique une connotation de sévérité extrême, des paroles particulièrement dures. Non, le ministre de Jésus-Christ doit être libre d'amertume, de vengeance et de dureté excessive. Et on a l'impression que ce verbe est une sorte de verbe parapluie pour les 4 catégories qu'il est en train de mentionner. En aucun cas faut-il réprimander rudement, mais je souligne bien le rudement. Le rudement, il ne faut pas réprimander rudement. Dans ce cas des vieillards, cela est lié tout simplement à l'âge de la personne. À l'âge de la personne. Lévitique 19, 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. » Il y a un honneur qui est dû à un vieillard, à une personne âgée, un honneur lié tout simplement à son âge. Dans Proverbes 20, 29, nous lisons « La force est la gloire des jeunes hommes et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Donc le défi pour le jeune pasteur, c'est de savoir comment réprimander un homme âgé qui a besoin d'être réprimandé tout en lui donnant le respect qui lui est dû. Ça s'appelle le tact. Le tact, la méthode. Aristote a dit, aux personnes plus âgées, nous devons donner l'honneur qui est approprié à leur âge, en se levant pour les recevoir et en leur offrant notre place, par exemple. C'est Aristote qui a dit ça. C'est intéressant, vous ne trouvez pas ? Alors, est-ce que cette injonction nous dit alors qu'il ne faut pas réprimander les vieillards ? Il faut les honorer, donc on ne les réprimande pas. Non ! Non, ça ne veut pas dire ça, c'est ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas ? Non, il ne faut pas ne pas réprimander les vieillards du tout. Il faut réprimander ceux qui ont besoin d'être réprimandés, mais pas rudement. Alors le mot vieillard, c'est le mot presbouteros, on l'a déjà vu, parce que c'est le mot utilisé aussi pour les anciens, d'accord ? Littéralement, il veut dire âgé, avancé en âge, un seigneur. Et alors, dans Jean 8, 9, il décrit tantôt l'âge d'une personne, et dans 1 Timothée 5, 17, par exemple, tantôt l'office. Donc ça peut être ou bien un ancien, donc office d'ancien, ou simplement une personne âgée. Alors bien sûr, le parallèle avec les femmes âgées ici nous montre qu'il ne s'agit pas ici d'un ancien, mais tout simplement d'un homme âgé. Il ne donne pas non plus la limite d'âge. À quel moment est-ce qu'on devient un homme âgé ? Ça, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là, d'accord ? Mais il dit « exhorte-le comme un père ». Parakaleo, c'est intéressant, dans Jean 14, 16, c'est le même mot « exhorter » qui est utilisé pour parler du Saint-Esprit. D'accord ? Le Saint-Esprit vient en nous et nous exhorte, il vient à côté de nous, si on veut, il nous exhorte, il nous aide. Et c'est de la même, cette même approche avec laquelle on doit aller vers une personne âgée pour la reprendre si elle a besoin d'être prise, comme le Saint-Esprit nous reprend. D'accord ? On vient à son côté et on le reprend. Le contexte, je pense, nous montre aussi avec quoi nous devons réprimander les personnes âgées et les autres aussi. Verset 13 du chapitre précédent, « Jusqu'à que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » On a quand même l'impression que l'exhortation doit être faite Bible en main, parce que c'est bien sûr lié à un péché si la personne doit être exhortée. Alors, pourquoi est-ce que ce verset est intéressant ? Parce qu'il montre bien que les vieillards, que les hommes plus âgés, ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent faire dans l'Église, de faire ce qui bon leur semble bon sous prétexte qu'ils sont âgés. Hein, une personne âgée pourrait peut-être se dire « Ouais, bon, tu sais, moi, ça fait très longtemps que je suis là, je suis une personne mûre, âgée. » Et donc, elle pourrait se dire « Bon, moi, je peux faire un petit peu ce que je veux. Hein? » Eh bien, faux. Pas du tout ça. Lorsqu'il s'avère nécessaire, le ministre ne doit pas craindre l'âge du vieillard et se dire que puisqu'il est âgé, je laisse tomber. Non, il faut corriger le vieillard qui a besoin d'être corrigé. Mais ce n'est pas facile. Il le dit, ne réprimande pas rudement un vieillard, mais exhorte-le comme un père. Il faut l'exhorter comme un père. Alors vous savez, quand mon père était vivant, et à un moment donné, mon père, un tournant de sa vie assez draconien, il a décidé de quitter ma mère, il l'a divorcée, et ensuite il a décidé de vivre une vie de débauche extrême. Moi j'étais jeune pasteur et je voyais mon père, un choix de vie étonnant, qui m'a complètement étonné. Et alors j'ai pensé juste d'aller voir mon père et le reprendre. Alors mon père n'était pas chrétien. Je pensais que c'était juste. Alors, je ne sais pas, mais mettez-vous dans ma peau. Comment vous allez reprendre votre papa ? Alors, j'ai acheté un billet d'avion parce qu'il était de l'autre côté des États-Unis. J'avais une de ces trouilles, une de ces peurs. J'étais tellement petit dans mes chaussures. Et je tremblais, je me rappelle. J'étais tout doux. Mon cœur battait très fort. Il n'y avait pas du tout de dureté dans ma voix. parce que c'était mon papa. Je savais que je devais reprendre mon papa. Mais j'y suis allé comme un fils irait voir son papa. Ce qui est triste, c'est que mon père n'a jamais reçu du tout ma réprimande. Il n'a jamais décidé de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Mais je n'oublierai jamais ce moment. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. S'il y a un vieillard dans l'église qui doit être réprimandé, vas-y comme si c'était ton propre papa. Et je pense que c'est très fort, n'est-ce pas, comme image. Alors, est-ce que c'est seulement les pasteurs qui doivent aller reprendre les vieillards qui ont besoin d'être réprimandés? Non, je ne pense pas. Alors, parfois, oui. Bien sûr, le pasteur a son rôle et s'il doit aller réprimander ou un ancien doit aller réprimander quelqu'un, il le fait. Mais Matthieu 18, 15 dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère, c'est un vieillard, tu vois qu'il a besoin d'être réprimandé, tu vas le réprimander comme si c'était ton papa. C'est beau, non? 2. Ça va très vite maintenant parce que c'est vraiment les mêmes principes. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Alors maintenant, c'est une autre situation. Timothée est jeune. Il y a d'autres hommes dans l'église qui ont son âge. Peut-être qu'il avait 30 ans, alors c'est adressé à d'autres qui ont 30 ans, disons. Il a peut-être 40 ans. Alors c'est peut-être d'autres qui ont 40 ans. On ne sait pas exactement, mais le mot « néos » duquel nous dérivons « néophyte », un jeune. Mais on dit au chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise sa jeunesse. Donc, c'est un semblable à lui. Comment un jeune pasteur doit-il corriger et reprendre un semblable, un égal à lui, un autre jeune homme de son âge? Alors, de nouveau, ce n'est pas facile. L'enjeu est difficile, là. Surtout si tu dois aller corriger quelqu'un de ton âge, et que tu ressentes que la personne que tu dois aller corriger ne te donne pas le respect. Peut-être qu'il t'est dû, du moins par rapport à ton travail et à ton œuvre de devoir le réprimander. Ça, c'est un travail dur, mais un travail nécessaire en tant que pasteur ou en tant qu'autre personne. Alors, peut-être tournons la situation d'autre sens. Imaginez que vous êtes un jeune homme ce matin, et que quelqu'un de votre propre âge vienne vous reprendre pour un péché quelconque. Quelles pourraient être vos réactions? Surtout si vous n'êtes pas d'accord. Vous pourriez vous dire, mais attends, voir, il se prend pour qui celui-là? Pour qui il se prend de venir me corriger? C'est peut-être pas la bonne réponse, n'est-ce pas? Écoutez, si le péché est avéré, alors le jeune pasteur pourrait se dire face à une telle réaction, « Attendez voir, c'est moi le pasteur, et donc je vais venir en position de force et te montrer. » Clac ! Mauvaise approche. Mauvaise approche aussi. Moi pasteur, toi pécheur. Ça rime, mais c'est pas la bonne approche, d'accord ? Non, une position de force n'est pas ce qui est préconisé dans ce texte. Ne réprimande pas rudement un vieillard, exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme un frère. Comme un frère. Si tu vas voir ton frère comme un frère, avec une relation d'amour, on aime son frère. Un vrai frère de sang, on l'aime. Et si on doit lui parler, c'est parce qu'on veut améliorer la relation et on veut voir ce frère progresser. Ben, l'approche vis-à-vis d'un jeune dans l'église qui pêche, c'est pareil. Comme un frère. Et si ce frère n'écoute pas, la Bible ne dit surtout pas de hausser le ton et de tomber avec quelque chose de force. Non, il dit, dans Matthieu 18, de nouveau, si ton frère a péché, va et reprends-le entre lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Si tu veux voir ton frère, le péché est avéré, bien sûr, et il ne t'écoute pas, ben, tu n'as pas besoin de hausser le ton, mais prends avec toi un ou deux témoins et tu vas voir ce frère avec un ou deux témoins. Alors bien sûr, lui va se sentir « wow ». Ils sont trois à venir me voir. Ben oui, ça met une sainte pression, mais avec une douceur, avec le même ton qu'on viendrait à son propre frère pour parler avec lui. S'il n'écoute toujours pas, Matthieu 18 nous dit ben, « dis-le à l'église à ce moment-là ». Donc toute l'église maintenant va voir ce frère pour lui demander de se repentir et Vraiment, dans un cas extrême, s'il écoutait pas, il serait exclu. Ça, ce serait pour n'importe qui de ces quatre cas de figure, n'est-ce pas? Alors, quel est le comportement attendu des jeunes gens dans l'Église? Écoutez, Tite 2, 6 à 8. « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. » D'accord? Donc, si un semblable à toi, un jeune homme, doit être confronté, tu vas le voir comme tu irais voir ton propre frère, avec humilité, avec amour, avec un désir de le voir se repentir pour que cette amitié soit maintenue. 3. 1 Timothée 5, 2. Les femmes âgées, alors de nous, ne réprimande pas rudement, les femmes âgées, mais exhorte-les comme des mères. Comme des mères. Alors ici, le mot pour femmes âgées, c'est presbouteras. C'est le féminin de presbouteros, d'accord? Homme âgé, femme âgée. Alors de nouveau, le verbe exhorter, c'est le même utilisé pour Saint-Esprit, d'accord? Il montre bien que les femmes âgées ne sont, elles non plus, pas libres de faire ce qu'elles veulent dans l'Église, de faire ce qui bon leur semble sous prétexte qu'elles sont âgées. Comme d'ailleurs un jeune homme. Un jeune homme ne peut pas faire ce qu'il veut non plus dans l'Église. Il y a des contraintes, c'est clair, ce que le Seigneur prescrit ici. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parfois avec l'âge, on peut penser qu'on est au-dessus de la réprimande, que l'âge est une sorte de passeport pour faire n'importe quoi dans l'Église. Faux. Faux, lorsqu'il s'avère nécessaire, eh bien, le jeune ministre, alors ça c'est intéressant, un jeune pasteur, homme, qui doit aller reprendre une femme âgée. Pas facile. Vraiment pas facile. Non, les femmes âgées, comme les hommes âgés, comme les jeunes gens et comme les jeunes femmes, sont parfaitement disciplinables si elles ont besoin d'être disciplinées. Alors, comment faire? Eh bien, mets-toi dans la position de devoir aller corriger ta propre maman. Comment tu ferais? Comment tu ferais pour aller corriger ta propre maman? Moi, je pense qu'on irait avec beaucoup d'humilité, crainte, peur. On ne veut pas la blesser. On l'aime. Mais s'il faut lui parler, il faut lui parler. Je trouve intéressant Tite 2, 3 et 4, parle des femmes âgées. Voici le comportement qu'elles devraient avoir. Dit que les femmes âgées, Tite 2, 3, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Les femmes âgées doivent être des femmes modèles et des femmes qui ont vraiment un désir d'apprendre aux jeunes femmes, quoi, à aimer leur mari et leurs enfants et d'avoir comme priorité le foyer. C'est beau? C'est vraiment beau. Dans Romains 16, 13, c'est intéressant, il y a un petit verset un petit peu mystérieux là, pas mystérieux, mais disons, il faut vraiment le trouver. Paul écrit à la fin de sa lettre, c'est un petit peu les au revoir. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Alors, on sait que c'est pas la vraie maman de Paul, mais il y a une relation entre Paul et cette femme qui était comme une maman et un fils. Et là, on voit le cœur de Paul. Cette maman, cette dame, la maman de Rufus était pour Paul comme une maman. Imaginez maintenant que Paul doive reprendre la maman de Rufus. Comment aurait-il fait cela? Avec beaucoup de tendresse, sachant combien il a appris d'elle. Une femme, sa maman, il a béni, qu'il l'a louée. Il veut l'honorer, mais aussi la reprendre. Et dernièrement, les jeunes femmes. Comment reprendre une jeune femme? Il y a les femmes âgées, verset 2, comme les mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs. Donc, exhorte celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Maintenant, imaginez, vous êtes un jeune pasteur et vous êtes apporté à confronter une jeune femme dans l'Église pour son péché. Comment s'y prendre? Eh bien, tu dois l'approcher comme si c'était ta propre sœur. Et là, je pense qu'il est en train de souligner un point très spécial, spécifique. Celles qui sont jeunes comme les sœurs, virgule, en toute pureté. En toute pureté. Et là, on a quand même l'impression qu'il est en train de parler d'une pureté sexuelle. Je vais traiter cette femme qui a besoin d'être corrigée avec la même pureté sexuelle que je traiterais ma propre sœur en chair. Et le pasteur qui ne prend pas cette injonction au sérieux sera très vite dans une situation de danger. Écoutez, je pourrais vous faire une liste de pasteurs que je connais qui ont chuté dans le domaine sexuel avec d'autres jeunes femmes, et surtout, souvent, ça commence avec la relation d'aide. Une femme qui a des problèmes vient voir son pasteur. Et le pasteur n'a pas pris les dispositions nettes et claires pour se protéger d'une éventuelle chute dans ce domaine. Kent dit ceci: le manque de provenance et d'indiscrétion gâchera le ministère de tout pasteur, quelle que soit son éloquence. Lorsque ses tâches pastorales l'obligent à avoir des affaires avec les jeunes femmes, il doit se conduire comme il voudrait que d'autres hommes le fassent envers sa propre sœur, ou comme il agirait lui-même envers sa propre sœur. Cet avertissement est des plus importants, car c'est en le négligeant que plusieurs jeunes hommes, sur le point de commencer un long et fructueux service, ont perdu leur utilité. Les jeunes pasteurs et les pasteurs moins jeunes doivent être extrêmement vigilants sur ce point. 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Toute pureté. Toute pureté. Alors, un jeune homme ou un jeune pasteur qui doit reprendre une jeune femme, écoutez bien, ne doit avoir aucun autre mobile que vouloir aider sa sœur. N'utilisons pas le prétexte de devoir lui parler comme moyen de faire des avances à cette personne. Très, très, très important. Alors, je termine avec ceci. Ce sera peut-être utile. Comment rester pur avec les femmes ? Comment rester pur avec les femmes ? Donc, je m'adresse certainement plus aux hommes qu'aux femmes pour ce dernier point, mais je pense que c'est important, parce qu'ici, il s'agit d'un jeune pasteur qui doit aider une jeune femme en la corrigeant. Comment faire cette tâche tout en restant pur ? Le livre des Proverbes donne des recommandations très pratiques sur comment rester pur dans nos relations avec les femmes. 1. Très vite, d'accord ? 1. Évite le regard. Évite le regard. Proverbe 6, 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Bien sûr, le contexte, c'est une femme prostituée, mais le principe est le même ici, dans le sens qu'on peut être attiré par le regard et on peut suivre ce regard. Job a dit dans Job 31, et je pense que ici, c'est très important. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc l'idée, ce n'est pas qu'on ne va pas voir des choses qui pourraient être attirantes, mais on ne s'arrête pas, ce regard ne s'arrête pas et on ne suit pas ce regard. 1. Évite le regard. 2. Évite la flatterie. Évite la flatterie. Proverbe 5, 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. C'est possible qu'une jeune femme soit attirée par un jeune homme de manière inappropriée. Attention, ne te laisse pas prendre par ses flatteries. Donc évite le regard. 2. Évite la flatterie. 3. Évite la pensée. Évite la pensée. Proverbe 6, 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc ça va vraiment des yeux au cœur. Tu commences à la convoiter dans ton cœur. Non, arrête, repousse cette pensée de distraction et de convoitise et de pensée. 4. Évite le rendez-vous. Évite le rendez-vous. Proverbe 7. Alors, ça, c'est délicat parce que parfois, il va falloir rencontrer une personne, il faut vraiment prendre ses dispositions pour la reprendre, pour un ministère normal. Mais ici, c'est un rendez-vous qui va au-delà, au-delà. Souvent, il est plus sage pour un pasteur de ne pas voir une femme seule. Mieux vaut être avec quelqu'un d'autre. Ça, ce serait une manière vraiment d'éviter ce problème. Il évite le rendez-vous. Proverbe 7:7. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée à la ruse dans le cœur. Elle était bruyante, sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt dans les places, etc. Verset 13, « Et elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, viens. » Il n'aurait jamais dû être là. Il n'aurait jamais dû être là. Il est tombé dans le piège parce qu'il était là où il ne devait pas être. C'est aussi simple que ça. Donc, évite le rendez-vous. Fais très, très attention. 5. Évite la maison. Évite la maison. Verset 25 du chapitre 7. « Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. » Il descend vers les demeures de la mort. Un jeune pasteur ne devrait probablement pas avoir un rendez-vous privé avec une femme chez elle. C'est probablement dangereux. Alors, je ne suis pas en train de dire que, bien sûr, les femmes sont comme ces prostituées. Ça, bien sûr que non, on comprend. Mais c'est simplement qu'il faut faire très attention. Il faut éviter le danger et les pièges. Mieux vaut aller avec quelqu'un. Et je termine avec ce dernier point. Donc, évite le regard, évite la flatterie, évite la pensée, évite le rendez-vous, évite la maison. Et 6, évite le toucher. Proverbe 7:13. Elle le saisit et l'embrassa. Voilà, on peut s'arrêter là. Apparemment, il s'est laissé embrasser. Et ça, c'était le début de la fin ou la fin de la fin. Alors, je conclus. Oui. Nous sommes tous redevables à être repris. Que nous soyons un vieillard, des jeunes gens, des femmes âgées ou des jeunes femmes. Nous sommes tous redevables. Nous devons tous être repris si nous avons besoin d'être repris. Faisons-le avec grand tact. Mais faisons-le. Faisons-le. Parce que c'est la volonté de Dieu. Que son Église soit pure. Alors n'ayons pas peur. Marchons avec le Seigneur, il n'y aura pas de problème, c'est aussi simple que ça. Marchons avec le Seigneur. Venons souvent à la Sainte Seine, faisons le point, confessons nos péchés, il n'y aura pas de problème. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci de tout cœur pour ce texte merveilleux. Et Seigneur, merci car tu as décrit les choses si bien, si clairement. Aide-nous dans notre Église, Seigneur, à appliquer ces choses, à être sages. Et nous t'en remercions d'avance, au nom de Jésus-Christ. Amen.